Un regard pour l'art est l'histoire d'une rencontre. Une rencontre très forte avec l'association Un regard pour toi qui apporte son soutien aux non-voyants. Chaque mois, nous nous retrouvons nombreux lors d'un rendez-vous téléphonique. Nous partons flâner dans un musée, un atelier, une exposition, une galerie. Découvrir, décrire, déchiffrer. Voix et musique nous guident. Ce podcast est l'une des traces orales de nos déambulations. Partons flâner les yeux fermés avec un regard pour l'art. Aujourd'hui, la déambulation nous conduit dans une immersion musicale et muséale à l'occasion de l'exposition Ex-Africa, dont le vernissage confiné mais télévisé eut lieu dimanche 21 février 2021 à 21h. Ce voyage nous attend au musée du Quai Branly jusqu'au 11 juillet. 150 œuvres, réalisées par des artistes contemporains de toutes générations et de toutes origines, attestent des présences africaines dans l'art d'aujourd'hui. Je vous propose de découvrir tout particulièrement un dessin de l'artiste libanaise Nazanin Pouyandé et une sculpture monumentale de l'artiste béninois Romuald Azoumé. Pour nous accompagner tout au long de cette visite, j'ai choisi de vous faire écouter l'artiste Sona Jobarté. Elle est joueuse de kora et descendante de la très longue tradition des griots en Afrique de l'Ouest. La kora, harpe africaine à 21 cordes, est l'un des instruments principaux du peuple malinké. Ce n'est peut-être pas un instrument très ancien, mais il joue une tradition qui, elle, remonte au XIIIe siècle, celle des griots. Ces poètes musiciens, dépositaires de la tradition orale, qui ont la grande responsabilité de la transmission de l'histoire de génération en génération. À la suite de son grand-père, considéré comme une véritable icône en Gambie, Sona Jobarté a créé sa propre histoire dans cette tradition dominée par les hommes. Virtuose, elle connaît aujourd'hui un succès international et se produit dans le monde entier. L'extrait que je vous propose d'écouter, intitulé Yarabi, a été diffusé par BBC News. Dans les jardins du Quai Branly, œuvre du paysagiste Gilles Clément. Écoutons l'air qui souffle dans ce paysage inspiré des savanes tropicales sèches. Empruntons les sentiers sinueux qui serpentent au cœur d'une végétation dense, mouvante, ondulante. Cette promenade nous conduit à l'entrée du musée. Nous pénétrons dans les salles lumineuses du rez-de-chaussée, dédiées aux expositions temporaires. Philippe Dagen, historien d'art et commissaire de cette exposition, nous y propose un dialogue visuel inédit entre 34 artistes contemporains du monde entier et les arts anciens de l'Afrique. Lors du vernissage télévisé, diffusé par Culture Box, chaîne éphémère de France Télévisions dédiée au soutien de la culture, Philippe Dagen nous explique pourquoi cette exposition s'intitule Ex-Africa. Écoutons-le.
Oh, c'est tout simple. C'est ex-Africa au sens de ce qui vient d'Afrique, ou je pourrais même dire ce qui nous vient d'Afrique. Ex, c'est ce qui signifie l'origine, l'extériorité. Alors, si l'on veut donner une explication plus savante, on a aussi fait une allusion à un auteur latin ancien, mais le sens premier, c'est vraiment de célébrer ce que nous devons à l'Afrique.
Comme vous l'aurez compris, cette exposition n'est pas un panorama de la création artistique en Afrique, même si toutes les œuvres présentées ont une relation avec les arts d'Afrique. Dans une muséographie pleine d'échappements, de décloisonnements, de circulations, il s'agit d'une exposition 100% art contemporain, vue à travers un prisme universel. Toutes les œuvres ont été produites entre les années 1980 et 2021. Emmanuel Casarero, président du musée du Quai Branly, nous en parle.
Et c'est important pour le musée de montrer qu'il y a un dialogue fécond entre le patrimoine que nous représentons avec ces collections accumulées depuis 400 ans et en même temps la création, les créateurs d'aujourd'hui qu'on peut voir dans cette exposition et montrer que cette relation est dynamique et riche.
Le voyage que nous propose le musée du Quai Branly compte trois grandes étapes: pop, métamorphose et activation. Comme nous ferons seulement deux escales, je vous propose de plonger directement dans la deuxième section de l'exposition qui s'intitule Métamorphose. Nous traversons la rotonde des masques. Dans une pièce ronde, à l'abri de grandes vitrines, les masques sont fixés au mur. Leur mode d'accrochage est proche de celui des anciens musées ethnographiques. Cette référence scénographique est voulue. Mais la pièce n'est pas sombre. Les murs, peints en un rouge orangé, viennent souligner la force et l'énergie de ces masques. Les masques sont montrés dans tous leurs états. Certains alliant bois, métal, dents, perles de verre. D'autres en bronze et en cristal. L'un est fabriqué à partir d'un jerrycan récupéré. L'autre marie plumes et plastique. Roues de bicyclette, crayons de couleur, écrans vidéo s'invitent dans ces créations. Il s'agit ici de recharger les masques d'une intensité d'expression qu'ils avaient perdue à force d'être regardés uniquement comme de beaux objets. Longtemps, ils n'ont pas été considérés en eux-mêmes, mais plutôt comme des curiosités plastiques, auxquelles les avant-gardes du début du XXe siècle notamment ont fait de multiples allusions formelles. L'idée ici est de rendre les masques à la vie. Poursuivons notre route. Arrêtons-nous un instant devant l'œuvre intitulée « Créole » de Nazanin Pouyandé. Il s'agit d'un assez grand format pour un dessin réalisé sur papier avec des techniques mixtes. C'est un format portrait. Il mesure 140 cm de haut sur 80 cm de large. Nazanin Pouyandé est née en 1981 à Téhéran. À l'âge de 18 ans, elle doit fuir précipitamment le régime iranien. Ce pays était alors déjà très fermé au monde des images. Quelques mois plus tard, en 2000, elle entre aux Beaux-Arts de Paris. Elle est alors âgée de 19 ans. Influence d'Orient et d'Occident s'invite dans son œuvre. Ses sources d'inspiration sont multiples. la peinture ancienne, l'art populaire, les arts premiers, mais aussi l'univers du cinéma, de la bande dessinée et des jeux vidéo. Sa peinture, narrative, intrigante, souvent énigmatique, nous invite à partager son monde où doute, mystère, dramatisation ont la part belle. Son arrivée coïncide avec la semaine annuelle des cérémonies vaudou. Cette forme de croyance, ce rapport au sacré qui lui était totalement étranger, ont joué un rôle capital dans sa production artistique. Elle commence alors à collectionner des œuvres de l'art classique africain, et notamment les masques guélédés de l'Afrique de l'Ouest. Elle dit « Ils sont formellement simples, tout en étant puissants et efficaces. Ils dégagent une sorte d'énergie indéfinissable pour moi. Ils sont comme vivants, avec une vie indépendante. » Ce dessin, intitulé « Créole », fut réalisé peu de temps après son retour d'Afrique en 2017. Sur un fond blanc, se détachent 6 sculptures anthropomorphes, nues, en pied. Elles occupent pratiquement toute la hauteur du tableau. Certaines sont féminines, d'autres masculines. Dans la partie gauche du dessin, 3 d'entre elles nous font face. Elles semblent nous fixer du regard. Dans la partie droite, les statues ont des positions différentes. Celle du premier plan, légèrement de 3/4, se tourne vers le centre du tableau. Derrière elle, une statue féminine de taille légèrement plus petite est de profil. Nous ne la voyons que partiellement, du fait du cadrage. Enfin, derrière elles deux, nous devinons une partie de la tête et la coiffure d'un personnage plus grand. Sa joue est marquée de scarification. Bien que ces 6 statues ne soient pas toutes sur le même plan, elles constituent cependant comme un fond, comme une frise. Elles sont figurées dans un camailleux de brun, mêlées pour certaines de violet, pour d'autres de vert ou encore de rouge. On discerne nettement les fins traits de crayon des différentes couleurs qui s'entremêlent. Certaines zones sont laissées blanches. La lumière se reflète vivement sur ces sculptures qui semblent être taillées dans un bois lisse. La représentation de motifs gravés dans le bois témoigne de la complexité de certaines coiffures et de la présence de scarification. Les formes sont simples, schématiques, voire géométriques. Des visages ovales, des yeux et des sourcils en arc de cercle, des corps cylindriques, des jambes tubulaires. Les mains et les pieds sont massifs. Une impression de force et de solidité se dégage de ces sculptures. Devant ces statues hiératiques, une femme, nue, debout, se tient elle aussi immobile, elle aussi figée comme une statue. Bien campée sur ses 2 jambes, légèrement écartées, elle adopte une position qui fait penser à la méditation. Ses bras ouverts, ses paumes de main tournées vers le ciel, sont sur le même plan que son corps. La moitié située à notre gauche de ce corps nu, aux formes douces et harmonieuses, est représentée de façon réaliste. Sa couleur rose chair contraste avec les brins boisés et irisés des statues de l'arrière-plan. L'œil sombre, maquillé de noir, nous fixe. La moitié de sa bouche est finement ourlée. Sa lèvre inférieure capte la lumière. Une fine boucle d'oreille pendante, ornée d'une pierre turquoise à son extrémité, se détache sur la chevelure brune, frisée, mi-courte de la jeune femme. La lumière vient également effleurer avec délicatesse sa clavicule, la courbe de son sein, sa cuisse, son tibia. Si la moitié gauche de ce corps nu est traitée de façon classique, académique pourrions-nous dire, il n'en est pas de même pour la partie droite. La forme générale est parfaitement symétrique et ne vient en rien troubler la pureté de la silhouette. Pourtant, le contraste entre les deux parties de ce corps est violent. Il fascine. Imaginez sur cette moitié droite un foisonnement de représentations de petite taille recouvrant toute la peau de cette femme, son corps, son visage, mais aussi ses cheveux. Aucun espace n'est laissé vierge. La couleur est partout. Elle est vive, contrastée, sans concession. C'est comme si cette moitié du corps, cette moitié du visage, cette moitié de chevelure était entièrement recouverte de tatouages. Pour accentuer l'effet, un cerne noir bien visible vient marquer le contour extérieur de cette moitié de nu. Les représentations se mêlent et s'entrelacent sans répit. Ici, des personnages historiques en tenue militaire. Là, des êtres hybrides, voire monstrueux. Sur la plante de pied de la jeune femme, un couple enlacé. Sur l'épaule de la jeune femme, un buste d'homme. Il a la peau bleue, bleu ciel, la main devant la bouche. Il est comme surpris, ou peut-être dubitatif ou encore effrayé. De fins serpents, aux couleurs chamarrées, sont lovés autour de son torse. Toutes ces scènes, ce foisonnement de personnages, ces images hétérogènes qui forment pourtant un décor continu aux couleurs vives et contrastées, nous évoquent les miniatures orientales ou extrême-orientales. Nazanin Pouyandé convoque ici le symbolique narratif des univers perse, mongol, japonais. Elle nous entraîne dans un monde onirique. Elle nous offre un voyage à travers l'histoire, les cultures, les mythes et les contes. Le contraste entre les deux moitiés de nu est déroutant. Le contraste de ce nu avec les statues africaines de l'arrière-plan est percutant. Elle en parle ainsi. Cette simplicité formelle des statues africaines est tout le contraire de la complexité des miniatures et de l'art décoratif perse. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à rassembler les forces visuelles et philosophiques opposées dans mon travail. Que dire de ce nu immobile, aussi immobile que les statues de l'arrière-plan? S'agit-il d'une vision singulière, excentrique, ambiguë, dérangeante? Pour Nazanin Pouyandé, la nudité renvoie l'homme à son état le plus archaïque, à son état de nature. La nudité a aussi à voir avec tous les instincts et pulsions, y compris le désir. Mais ici, une dimension s'ajoute. En effet, il s'agit d'un autoportrait. Un autoportrait en pied, de l'artiste nu. Il y a comme une mise en abîme. Nazanin Pouyandé évoque ici ses racines iraniennes, dont elle ne pourra jamais se défaire. Mais pas seulement. Nous sommes le miroir de ce que nous vivons, de ce que nous voyons. Je me considère comme un patchwork de culture. Ce sont ses mots. Elle évoque l'hybridation, le syncrétisme des cultures elles-mêmes. Comme l'indique le titre de son œuvre créole, elle évoque le concept inventé par Édouard Glissant de la créolisation. Elle définit ainsi cette créolisation comme cette troisième chose, résultat de la rencontre de deux forces opposées, née dans le hasard. Qu'a-t-elle voulu montrer? Que les statues africaines ne sont pas mortes. Que l'une des fonctions de l'art est de communiquer avec l'autre par le biais d'un simple objet sur les forces existentielles comme le désir, la fertilité, l'amour. Elle a voulu montrer également que dans cette époque culturellement confuse, marquée par des vagues croissantes de migration, les frontières tendent à disparaître. Avant de poursuivre notre voyage, je souhaiterais vous faire écouter sa voix. Elle évoque la perception de son travail par les Béninois.
J'avais des phrases des Béninois qui me restent, je pense, à vie dans ma mémoire. L'une des personnes qui habitait dans cette résidence d'artiste m'a dit « Toi, tu es une sorcière des images ». Après, une autre fois, il y avait un sculpteur béninois qui est passé. Justement, ils étaient très étonnés par le temps que je prenais. Et donc, le sculpteur me dit « Toi, tu prends beaucoup ton temps et c'est ainsi que le monde t'écoutera plus ». Ça, c'était vraiment des choses qui me restent toujours à vie. Et moi, franchement, après ce voyage, j'ai l'impression que j'ai laissé une partie de moi en Afrique. Et j'ai vraiment envie de retrouver aussi cette impression.
Poursuivons notre périple. Faisons maintenant escale dans un espace vaste et lumineux. Les murs sont blancs, les œuvres monumentales. Nous sommes immergés dans la troisième partie de l'exposition qui s'intitule « Activation ». Elle réunit des témoignages du monde aux multiples préoccupations. Certains artistes ont été spécialement sollicités à l'occasion de cette exposition. Des commandes furent passées à Pascal Martine Taillou, Kader Atia, Myriam Mihindou et Romuald Azoumé. C'est justement sur l'une de ces œuvres, élaborées in situ, spécialement pour l'exposition, que nous allons nous attarder. Son titre, Non-retour. L'artiste, Romuald Azoumé. Ses dimensions, 10 mètres sur 8. Romuald Azoumé est né le 7 février 1962 à Porto Novo, au Dahomey, aujourd'hui République du Bénin. Descendant yoruba, il a grandi dans une famille qui respectait les ancêtres et les anciennes traditions. Il écrit « Il y avait, et il y a toujours d'ailleurs, des divinités qui protègent les maisons. Dans ma famille, il y a le gou, le sakpata, les ho, le houdoudoua. Elles avaient toute une représentation sculpturale en bois, en fer ou en terre. Des sculptures qui sont aujourd'hui considérées comme de l'art ancien. Ça a été mon premier contact avec lui. » Il poursuit. J'ai aussi vu les Guélédé, les Egun, les Gungo, qui sont les masques yoruba, car je suis yoruba. Je me souviens que les sculpteurs attitrés récupéraient les vieux Guélédé pour en faire de nouveaux, pour les cérémonies. Cet art n'était pas seulement circonscrit à un clan d'initiés, il était porté par la communauté qui était en contact avec les créations lors des cérémonies. Donc, très jeune, j'ai eu conscience que l'art pouvait servir la communauté. Il a voulu perpétuer et moderniser cette tradition des masques. Ses créations, composées à partir des rebuts de la société, ont rendu très célèbre ce plasticien béninois. Vous aurez sans doute entendu parler de ces masques bidons, titre de l'exposition qui eut lieu au Centre culturel de Cotonou en 1989. Avec ces bidons, avec cette matière brute, il revisite l'art des masques. Romuald Azoumé redonne vie à cette tradition. Il s'approprie les bidons d'essence, les détourne, les exploite, les retravaille. Des formes nouvelles, intenses, profondes, jaillissent. C'est ainsi qu'il est arrivé à ce qu'il appelle la peinture du vrai visage des gens. Il crée des figures expressives. J'ai donné à ma tradition un souffle contemporain. Ces bidons clament, s'agitent, bougent. Romuald Azoumé dit avec passion ce qu'il pense du monde qui l'entoure. Il dénonce les maux qui rongent l'Afrique, scandale, corruption. Il dénonce les problèmes écologiques liés aux déchets envoyés par l'Occident en Afrique. Il dénonce également une nouvelle forme d'esclavagisme, née du trafic d'essence à la frontière entre Bénin et Nigeria. Trafic condamnant des hommes à transporter des bidons de pétrole sur leur moto, dans des conditions extrêmement dangereuses. Ils luttent contre la souffrance humaine et l'injustice sociale. Son œuvre, No Return, ici devant nous, est elle aussi élaborée à partir de déchets recyclés. Il dit « Je renvoie à l'Ouest ce qui leur appartient, c'est-à-dire les déchets de la société de consommation qui nous envahit chaque jour. » Il ne s'agit plus de bidons d'essence. C'est une œuvre très différente de ce qu'on connaît de lui, nous dit Philippe d'Agen. Elle est composée de semelles de tongs, de milliers de semelles de tongs, 5111 pour être précise, arrivées dans des sacs en plastique depuis les plages du Bénin et disposées par Romuald Azoumé lui-même et deux assistants, méticuleusement disposées. 5111 semelles de tongs, 5111 semelles de tongs de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Certaines d'un bleu encore vif, d'autres d'un bleu ciel, d'autres oranges, d'autres jaunes, d'autres vertes. Elles sont parfois unies, parfois multicolores, toutes usées. Romuald Azoumé et ses deux assistants les ont mélangées et placées une à une, avec une extrême régularité pour former comme un ruban qui s'enroule en une vaste spirale de 10 mètres sur 8. Essayons de refaire leurs gestes pour mieux imaginer cette œuvre. Plaçons-nous au centre de ce grand espace marqué par une estrade blanche. Mettons-nous à genoux. Prenons une première tongue dans les sacs. Posons-la au centre de l'espace. Posons ensuite la deuxième tongue, alignée sur la première. Elle vient la recouvrir partiellement. La première rangée est placée. Attaquons-nous à la deuxième. Les gestes se répètent. Cette fois, la nouvelle rangée est décalée par rapport à la première de la hauteur d'une demi-tongue environ. Plaçons les quelques 17 tongs de cette rangée. Passons maintenant à la troisième rangée, la quatrième, la cinquième, la centième, la 300e peut-être. Les tongs multicolores, ainsi méticuleusement placés, forment un ruban. Les tongs sont disposées avec une régularité frappante. Elles dessinent une forme courbe, harmonieuse, pleine, sereine. La forme d'un enroulement, d'une spirale parfaite, d'une gigantesque spirale de 8 mètres sur 10. Sa perfection formelle n'est pas sans rappeler celle de la spirale Jetty, jetée en spirale de Robert Smithson, datant d'avril 1970. Célèbre œuvre du Land Art, se déployant sur 457 mètres de long et 4,50 mètres de large sur les rives du Grand Lac Salé, aux États-Unis. Mais revenons à l'œuvre de Romuald Azoumé. C'est une sculpture et pourtant c'est une œuvre en deux dimensions. Ses tongs dessinent. Ses tongs qui se chevauchent dessinent une spirale. Ses tongs dessinent aussi un serpent enroulé, lové. Chaque tongue de couleur est comme l'une de ces écailles irisées. Le serpent joue un rôle prépondérant dans les religions et les mythologies d'Afrique, et tout particulièrement au Bénin, berceau historique du vaudou au XVIIe siècle. La ville béninoise de Ouida, construite sous le signe de Dangbé, reste aujourd'hui la capitale de cette religion. L'animal le plus vénéré est le python. C'est une divinité protectrice et bienfaitrice. Son culte y est toujours pratiqué. La charge symbolique de l'œuvre est donc immédiate. Écoutons l'artiste qui nous éclaire sur le sens de cette œuvre.
Ma pièce que j'appelle Non-Retour, c'est les résidus de la société de consommation, des tongs qui ont été ramassés sur les 160 km de plage au Bénin. Le tout redevenant un symbole très bien connu des H-Windows, des Baluba, les Luluwa, du Kasaï, du Zaï, des Dogon, de tous ces peuples qui ont considéré ce symbole comme le mouvement de l'âme, le symbole premier.
Comme vous l'aurez deviné, l'œuvre est sonore. Les sons que l'on entend derrière la voix de Romuald Azoumé sont construits à partir des bruits des lieux où ces tongs furent ramassés. Des bruits de bateaux, voix, chants de pêcheurs. À partir d'un matériau très simple, ces milliers de tongs, d'hommes, de femmes, d'enfants, Romuald Azoumé a donc su produire un objet puissant, d'une immense élégance, d'une grande profondeur symbolique. Philippe Dagen explique que la force de cette œuvre naît de la tension entre la simplicité de la forme et du matériau et la profondeur du sens, des sens. Pourquoi ces milliers de tongs? L'artiste évoque rapidement les plages du Bénin, où elles ont été récoltées. Philippe Dagen, commissaire d'exposition, nous en dit plus.
On peut dire que c'est une œuvre engagée, on peut dire que c'est une œuvre politique, très clairement. Le choix du matériau est simple. Romuald Azoumé a demandé à faire ramasser sur les plages du Bénin, oui, puisqu'il habite à Cotonou, des tongs. Alors, bon, on peut se demander pourquoi. En fait, l'explication est simple, c'est qu'il avait constaté depuis longtemps qu'on voyait, et ce n'est pas propre aux plages du Bénin, bien sûr, on voyait de ces débris, souvent abîmés par le sel, par les vagues, échouer, parce que les migrantes ou les migrants, au dernier moment de monter dans un bateau, alors un bateau qui va arriver ou ne pas arriver, et malheureusement souvent ne pas arriver, ont ce genre de chaussures parce que ce sont les seules avec lesquelles dans l'eau ça ne s'adoure. Bon, et ils peuvent marcher. Et au dernier moment, généralement, la vague qui est très forte les entraîne. Donc, ce sont les dernières traces de femmes et d'hommes dont souvent on ne connaît pas le sort, mais dont on peut malheureusement supposer quel a été le sort. Donc c'est vraiment une pièce sur ces voyages forcés et les tragédies auxquelles ils conduisent.
Cette œuvre est donc une œuvre engagée. C'est une œuvre politique. Elle peut être lue comme un mémorial pour ces hommes, ces femmes et ces enfants qui ont perdu la vie, mais pas seulement. L'artiste a voulu y ajouter une autre dimension, une dimension plus universelle. Écoutons-le.
Pour moi, ça montre aujourd'hui l'intrusion dans le monde de cette universalité qui vient de partout en réalité. On a toujours considéré l'immigration comme l'immigration de l'Afrique vers l'Occident, qui est le grand sujet dont tout le monde parle, mais c'est faux. Regardons simplement l'immigration chez nous déjà en Afrique. Il n'y a pas de différence, on ne voit pas l'étranger. On voit que des Noirs qui circulent chez des Noirs. Et c'est ça, normalement, le monde aujourd'hui. Donc, c'est pour dire aujourd'hui que par cette pièce-là, non, pas le choix. Donc, c'est pour ça que cette pièce s'appelle « Non, retourne ». Nous devons avancer.
Nous devons avancer. C'est aussi dans ce but que Romuald Azoumé a accepté d'installer une œuvre dans un musée fermé pour une exposition en attente, dit-il. Pour moi, c'est à la fois un signe d'espoir et de résistance, car il faut bien résister à cette situation qui devient lourde et pesante pour le monde entier. On ne peut qu'avancer. Si c'est possible, oui, j'installe. Mon but, donner de l'espoir. En vous présentant aujourd'hui les œuvres de ces deux artistes, Nazanine Bouyandé et Romuald Azoumé, j'ai cherché à partager avec vous la force de cette exposition qui met en lumière la place prépondérante des arts de l'Afrique dans la création contemporaine. Des arts de l'Afrique qui ne s'expriment plus sous le joug du colonialisme ou sous l'éclairage du primitivisme. Des arts de l'Afrique incarnés, libérés, vivants. Dans son œuvre, Non-Retour, Romuald Azoumé a repris le vocabulaire et la symbolique des initiés pour nous livrer sans pudeur des messages sur les délires et les dérives de l'actualité mondiale. Nazanine Pouyandé, dans son dessin créole, a su élaborer une image universelle percutante, en juxtaposant, comme dans un collage, des éléments pleins de sens et de symboles issus de multiples cultures. Quant à la musique de Sona Jobarté, qui nous a accompagnés tout au long de ce périple, elle aussi mêle héritage africain et influence européenne, acquise notamment lors de ses études au Royal College of Music de Londres. Nous sommes à la fois artistes du monde et ambassadeurs de notre culture, dit Romuald Azoumé. J'espère que ce voyage vous aura convaincu de la poésie et de la force de ce dialogue des cultures.